Vous vous rappelez, Matthieu 5, le sermon sur la montagne, ce grand enseignement de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Alors, je vous remets le contexte un petit peu rapidement. Nous sommes autour de Jésus. Nous sommes autour de Jésus et nous l'écoutons nous parler. C'est cette attitude que nous devrions avoir ce matin. C'est lui qui nous parle. C'est lui qui nous adresse à chacun d'entre nous et il nous parle. Ses disciples se sont approchés de lui pour mieux comprendre et saisir ce qu'il dit. Et nous voulons aussi, dans cette même attitude, eh bien, nous approcher de lui pour mieux comprendre ce qu'il veut nous dire. Parce qu'il est Jésus, notre roi, et nous vivons de lui, et nous vivons par lui, et nous vivons pour lui. Et lui, assis, il nous donne comme une sorte de feuille de route. Nous avions remarqué la semaine dernière qu'à la conclusion de cet enseignement, les foules étaient là et étaient stupéfaites de ce qu'il parlait avec autorité. Et nous avions remarqué qu'il ne parle pas comme un expert dans une matière, qu'il donnait simplement une opinion, mais il nous parle en tant qu'autorité ultime, parce qu'il est vraiment notre Créateur, parce qu'il est notre Sauveur et notre Seigneur. Il part avec autorité, nous reconnaissons cette autorité. Alors, nous sommes là, il est notre Créateur, notre Sauveur, notre Seigneur, et il dit ce qu'il attend de nous. Et nous sommes ici, dans cette obéissance de son enseignement. Seigneur, nous sommes tes disciples et nous voulons t'écouter. Nous sommes tes disciples et nous voulons marcher selon cette feuille de route. Nous sommes tes disciples, nous sommes imparfaits, nous tombons dans cette feuille de route, mais nous voulons nous relever et garder en mémoire vivante ce que tu nous dis, ce que tu nous appelles à vivre. Seigneur, renouvelle en nous ce matin ce que tu veux nous dire, ce que tu nous dis. Amen. Alors on va lire ensemble ce que Jésus dit à ses disciples. Ayant ouvert la bouche, chapitre 5, verset 2 de l'évangile de Matthieu, peut-être on peut mettre le texte. Sinon, vous ouvrez vos Bibles ou vous ouvrez votre smartphone. Ayant ouvert la bouche, Jésus les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Et on s'arrête là pour ce matin. Les paroles de Jésus sont troublantes, n'est-ce pas? En tout cas, c'est comme ça qu'elles me troublent. Moi, personnellement, lorsque je les lis, elles ne nous laissent pas indifférentes. Jésus débute son enseignement sur le bonheur. Si on demandait à un passant la définition du bonheur, sur ce que signifie être heureux, quelles seraient les réponses que nous entendrions? Qu'est-ce que vous, vous répondriez? C'est quoi être heureux? Je pense que l'on pourrait entendre ce genre de choses. Être heureux, c'est avoir tout ce qu'il me faut, tout ce dont j'ai besoin. C'est être comblé financièrement, économiquement. Être heureux, c'est avoir du pouvoir, c'est-à-dire libre de faire tout ce qui me plaît. Être heureux, c'est être aimé, c'est être admiré, c'est être bien entouré, c'est d'avoir des amis, d'être approuvé. Être heureux, c'est être bien dans sa peau, c'est se suffire à soi-même, libre du regard des autres. Être heureux, c'est être en bonne santé. D'autres, s'ils ont fait la philosophie jusqu'en terminale, diront que la quête du bonheur, c'est une quête sans fin, que le bonheur est insaisissable, qu'il n'est pas du tout dans le pré. Car si on pensait l'y trouver, eh bien, il est déjà plus. Mais Jésus, dans ses béatitudes, nous prend à rebrousse-poil. Entre parenthèses, béatitude, ça vient du latin beati. Je ne sais pas si je le prononce bien, je n'ai pas fait de latin assez dans mes années de scolaire. Du latin beati qui veut dire simplement la traduction de heureux qui. Et je ferme la parenthèse. Pour Jésus, être heureux, ce n'est pas posséder, c'est être pauvre. Et heureux, celui qui est non pas en train de se réjouir, mais celui qui pleure. Et heureux, non pas les forts qui dominent par leur pouvoir, mais les doux. C'est quand même un peu le monde à l'envers. C'est le bonheur selon Jésus. Continuons. Et heureux, non pas celui qui trouve son bien en lui-même, mais celui qui fait miséricorde à autrui. Et heureux, non pas celui qui revendique son droit, mais celui qui amène la paix dans les situations. Et le pire, enfin, si on reçoit la parole, et heureux, selon Jésus, non pas celui qui est aimé, adulé, approuvé, mais celui qui est persécuté, injurié, calomnié. Waouh ! Tous les hommes cherchent le bonheur, mais Jésus donne une voie différente et paradoxale. En tout cas, pour moi, les paroles de Jésus me bousculent. Elles me font violence dans mes certitudes. Elles me sapent les valeurs sur lesquelles je pourrais fonder ma vie. Si nous avons fondé notre bonheur sur les valeurs matérielles ou économiques, ou sur des besoins de reconnaissance par les autres, ou bien sur des valeurs d'estime de soi et de force égocentrée, si nous avons basé notre bonheur sur la quiétude, être dérangé par rien, alors c'est comme si Jésus, par ses paroles, envoie un tsunami. J'ai marqué comme ça, j'étais poète ce matin. Jésus a envoyé un tsunami sur les tranquilles rivages de mes convictions. Bon, c'est beau, hein ? Merci. John Stott, qui a écrit un commentaire sur ces chapitres 5, 6 et 7 de l'Évangile de Matthieu, suggère que traduire le mot grec « makarios » par « heureux » peut induire en erreur. Et je cite John Stott, « Le bonheur évoque un état subjectif, alors que la déclaration de Jésus évoque un jugement objectif. Il ne nous fait nullement part de ce que les personnes concernées devraient ressentir, être heureuses, mais de ce que Dieu pense d'elles. » elles sont bénies. Fin de citation. C'est Dieu qui déclare, ils sont heureux. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé les traductions en anglais. Peut-être, Elisabeth, tu peux dire comment c'est marqué heureux en... C'est blessed, il me semble, hein, si je dis. Blessed, qu'on peut traduire aussi par béni. Hein, qu'on peut traduire aussi par béni. Voilà. Alors, non pas un état subjectif d'être heureux, mais un état objectif, qui est une déclaration de Dieu sur ceux qui sont artisans de paix, sur ceux qui pleurent, ceux qui sont outragés, ceux qui sont doux. Allons au plus près maintenant de ce que nous dit le Seigneur dans ses paroles. Ces paroles, en fait, souligne notre faiblesse spirituelle. Le pauvre en esprit n'est pas un simple d'esprit, ce n'est pas un inadapté mental, social ou économique. Le pauvre en esprit, c'est celui qui reconnaît qu'il n'a rien en lui pour payer, pour mériter, pour réclamer, ne serait-ce qu'un petit bout du royaume des cieux. Pourtant, c'est à lui qu'appartiennent le royaume des cieux. Le pauvre en esprit, c'est cet homme qui, dans la parabole, se frappe la poitrine, qui n'ose même pas lever les yeux vers le ciel et qui dit « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, moi qui suis un homme pécheur. » Voilà un pauvre en esprit. Et Jésus lui dit « Cet homme-là sera justifié. » Celui-ci a accès à Dieu et non pas l'autre qui se réclame de toutes ses bonnes œuvres. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des mendiants, qui vivent de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Heureux ceux qui pleurent, mais de qui Jésus parle-t-il ? De ceux qui pleurent à la suite de la perte d'un bien ou d'un bien-aimé? Oui, certainement. Ils seront consolés, car c'est la promesse de l'Évangile. Dieu sèche toutes les larmes de ses enfants. Les pleurs font partie de la vie chrétienne, dans son pèlerinage. Les pleurs font partie de nos soupirs inexprimables. Ils ont leur place dans la piété chrétienne. Et ceux qui nous disent le contraire nous trompent. Nous pleurons, non pas par désespoir, mais bien au contraire, car nous espérons. Rappelez-vous ce psaume, psaume 126, celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Celui qui n'a plus d'espérance, qui n'attend plus rien, eh bien cet homme-là ne pleure plus. Il n'y a rien à espérer. Mais ceux qui pleurent aujourd'hui seront consolés définitivement, car l'objet de leur espérance sera réalisé. Heureux vous qui pleurez, vous serez consolés. Vous serez consolés. C'est une promesse. Le disciple de Jésus-Christ pleure comme Jésus a pleuré. Jésus a pleuré devant la mort. Jésus a pleuré devant l'incrédulité et face au péché de son temps. Jésus a pleuré devant Lazare, le tombeau de Lazare. Jésus a pleuré devant l'incrédulité de Jérusalem. Le disciple pleure aussi également sur son propre manquement, sur ses propres péchés ou sur les péchés des autres ou sur le mal qui imprègne notre monde. Paul, par exemple, va dire qu'il ressent une tristesse profonde, un chagrin continuel, ils nous disent comme ça, pour son peuple, ses corégionnaires qui n'ont pas accepté le Christ. Il est atteint d'un chagrin. Heureux les doux, car c'est le caractère qui se développe lorsqu'on a conscience de sa propre faiblesse, qui est aussi celle des autres. La douceur va avec l'humilité, la patience. Le doux ne profite pas de la faiblesse d'autrui comme le ferait le violent et le fort. Le doux patiente, il soutient, il fortifie le prochain. Le disciple de Jésus est doux comme Jésus est doux et humble de cœur. Et vous savez, la douceur du cœur ne signifie certainement pas la faiblesse ou le manque de fermeté. Notre Seigneur est la figure même de la douceur et de la fermeté. Il est l'agneau et il est le lion. Hein ? Je voudrais faire une remarque. Il nous est bien plus facile de reconnaître nos faiblesses devant Dieu que devant nos frères. Que quelqu'un vienne nous faire remarquer notre faiblesse que nous venons de confesser devant Dieu juste un moment avant, et un frère vient nous parler de nos faiblesses, et bien nous allons essayer de nous défendre devant ce frère, n'est-ce pas ? La douceur des disciples accepte la confrontation avec les autres et reconnaît son péché, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les autres. Je ne veux pas faire de commentaires sur les actualités, mais je reconnais que les forts s'entretuent et ne possèdent rien. Les humbles possèdent le pays, nous est dit dans une promesse de l'Ancien Testament. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Certainement, faim et soif de justice sociale. Le disciple de Jésus combat l'injustice, mais ce n'est pas son combat premier. La justice sociale que le disciple promeut est consécutive à l'annonce de l'Évangile. Le mal du siècle, vous savez, ce n'est pas l'injustice sociale, l'injustice alimentaire, l'injustice écologique. Le mal du siècle, c'est la rébellion avec Dieu. C'est là notre mission, et la mission du disciple, c'est d'annoncer la réconciliation avec Dieu. C'est notre mission à nous. Mais heureux ceux qui ont faim et soif de justice, c'est aussi cette faim et soif de justice qui caractérise nos vies pratiquement. Jésus nous a justifiés par la foi, c'est ce que vous êtes les uns et les autres, justifiés par la foi, rendus justes. Et Dieu nous appelle à marcher dans quoi ? Dans la sanctification pratique. Que cette justice à laquelle nous sommes habillés puisse vraiment se manifester dans nos quotidiens, les uns et les autres. Et un jour, nous serons rassasiés. Nous serons pleinement semblables à lui. Nous le verrons face à face. Heureux les miséricordieux. Vous savez, la miséricorde, c'est un terme que j'affectionne. Peut-être vous vous en êtes rendu compte. On est miséricordieux quand on est face à la misère de l'homme. Et on est miséricordieux lorsqu'on fait un geste et une action pour soulager sa misère. La Bible nous décrit que Dieu est un être miséricordieux, lent à la colère. Et je sais que certains n'aiment pas que je parle ainsi. Nous sommes des misérables. Nous sommes des misérables. Moi, je le reconnais. L'apôtre Paul le dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Nous sommes misérables, mais nous avons obtenu miséricorde. Alors, ils n'aiment pas qu'on parle que les chrétiens sont des êtres misérables, parce qu'ils ont peur de tomber dans le misérabilisme. Mais ce n'est pas ça du tout. Pas ça du tout. Vous savez, le boiteux de la Belle Porte était un misérable. Il était là en train de mendier, il ne pouvait rien faire. Ok ? S'il n'était pas un être misérable, il ne serait pas en train de mendier. Et le misérable s'est levé. Et le misérable est devenu un misérable qui chante, qui danse et qui loue Dieu. Voilà ce que je suis. Un misérable qui chante, qui loue et qui saute pour Dieu. Amen ? Alléluia ! Et voilà ce que vous êtes. Vous êtes des misérables qui avez obtenu miséricorde de Dieu. OK ? Bon, revoyez votre miroir. D'accord ? Il ne vous dira pas que vous êtes le plus beau, le plus fort, etc. Il vous dira, vous êtes misérable, mais tu as obtenu miséricorde. Tu es misérable, mais tu peux chanter Dieu. Tu es misérable, mais tu es aimé de Dieu. Voilà ce que dira votre miroir. Heureux les cœurs purs. Ici, c'est le sens d'un cœur non divisé. On pourrait traduire par cœur entier, sans hypocrisie, sans tromperie, sans mensonge. David s'interroge et se pose la question dans le psaume 24. Qui pourra s'approcher de la montagne de Dieu ? Celui qui a les mains innocentes et qui a le cœur pur, c'est-à-dire celui qui ne ment pas, qui ne trompe pas et qui ne jure pas. Vous savez, le cœur pur, on ne l'est pas par nature. On est plutôt des êtres et des hommes et des femmes avec des cœurs divisés. Dans un célèbre psaume, encore le psaume 51 que j'affectionne aussi, parce que j'en ai souvent besoin, David dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Alors je vais faire l'impasse sur heureux les artisans de paix et je vous reporte sur le ministère de réconciliation que nous avons vu dans heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Je vais aussi laisser pour l'instant heureux ceux qui sont persécutés pour la justice et à cause de mon nom, etc. Parce que je pense que c'est un pont important lorsqu'on va parler d'être sel de la terre et lumière du monde. Ça fait partie de notre mission. Qu'on ne soit pas aimé du monde, c'est normal. Si on n'est pas injurié, calomnié, persécuté pour des choses mauvaises, ça va. Mais on peut être calomnié, injurié à cause de Jésus-Christ. Et vous savez quoi ? Jésus s'identifie avec celui ou celle qui est persécuté, calomnié, s'identifie. Lorsque l'apôtre Paul, le persécuteur, rencontre Jésus sur le chemin de Damas, et que Paul demande à Jésus qui tu es, Jésus lui répond, je suis celui que tu persécutes. Persécuter des chrétiens, des croyants. Jésus s'identifie. Je vais conclure, parce que je ne voudrais pas vous endormir. Une conclusion en quatre points. Ça sera rapide. Les promesses liées aux béatitudes, parce que vous avez vu, j'ai parlé surtout de heureux, ceux qui, et puis après il y a des promesses. Ces promesses sont pour le présent, mais davantage et accomplies quand le royaume de Dieu sera là dans sa plénitude. Mais nous pouvons goûter déjà, dès à présent, de toutes les promesses de ce qui est marqué dans les béatitudes. Vous serez appelés fils de Dieu. Nous sommes appelés fils de Dieu, fils et filles de Dieu. Déjà, dès maintenant. Mais ce que nous sommes, eh bien, ça sera complet lorsque le Seigneur reviendra. La première conclusion, vous voyez, c'est rapide. Seconde conclusion. Jésus est l'homme, fils de Dieu, qui a incarné totalement ses béatitudes. C'est lui le doux et humble de cœur. C'est lui qui est artisan de paix. C'est lui qui a été persécuté et outragé et injurié et mis à la croix. C'est lui qui procure la paix lorsqu'on s'approche de lui. Nous servons un Seigneur qui ne demande pas à ses disciples de suivre un chemin qu'il n'aurait pas parcouru lui-même. Nous avons un Seigneur qui s'est rendu faible pour donner à tous ceux qui croient en lui un avenir, c'est-à-dire toutes ces bénédictions que nous lisons dans les béatitudes. Ça va ? Seconde conclusion, retenez, Jésus a marché devant nous et il peut nous accompagner sur ce chemin et sur cette feuille de route qu'il nous donne. Troisième conclusion. Les béatitudes sont le fruit de l'esprit en nous, C'est le caractère du chrétien, appelé à se développer dans sa vie. Ne croyez pas qu'il y a des gens qui sont purs de cœur, qui sont doux par nature. On attise plutôt le feu des colères des uns et des autres plutôt qu'artisans de paix. On aime bien quand ça se chicane, et surtout si on est là, un peu spectateur. Hein, comme des matchs de boxe. Et donc c'est une bonne nouvelle. Dieu m'appelle à vivre ça, j'en suis pas capable de vivre ça, mais il me donne la force de le vivre par son esprit. Et j'ai toute la vie pour cheminer sur cette feuille de route, avec l'aide de son esprit. Dietrich Bonhoeffer dit ceci, les béatitudes, c'est le caractère extraordinaire de la vie du croyant. C'est le caractère extraordinaire parmi des gens qui sont tout à fait ordinaires. À méditer, n'est-ce pas? Alors, Seigneur, comment est-ce que je mets en pratique ça? Quatrième plan, point. Vous voyez, ça va vite. Comment je mets en pratique ça? Alors, comment je mets en pratique ça? Eh bien, je le lis, je le relis. Je ne dis pas, c'est pour les autres. Je dis, c'est pour moi. Je me mets à genoux et je demande au Seigneur. Et ça, je le fais tous les jours. Et je vous conseille cette semaine de prendre du temps, tout simplement, à relire ce qui est marqué. C'est ce que Jésus, avec autorité, nous dit. Jésus, notre Seigneur, nous dit à les uns et aux autres. Il ne nous donne pas un conseil. Il nous ordonne. Il nous demande. Et si nous sommes ses disciples, on va être impacté par ce que nous venons de lire. Et on désirera vivre ce qu'il nous demande de vivre. Je vous l'avais dit la semaine dernière, on peut tomber. On n'est vraiment pas là glorieux dans ce chemin. Mais quand on tombe, on se relève. On demande pardon et on continue. Et on garde toujours la feuille de route devant nous. On ne l'abdique pas. On ne l'abandonne pas. Si j'ai un de mes frères qui a besoin d'avoir de la miséricorde, que je puisse donner de la miséricorde. Si un frère qui a besoin d'être pardonné par moi, parce que je l'ai offensé, j'y vais. J'attends pas qu'il fasse le premier pas. J'y vais. C'est notre feuille de route. C'est notre feuille de route. C'est ce que Jésus nous a demandé. Alors, faites comme vous voulez pour le mettre en pratique. Je n'ai pas de recette miracle, ni des 7 clés, ni des 8 clés, ni des 10 clés. J'ai juste ce texte-là qui me parle avec autorité et moi qui désire vivre en tant que disciple. Et je me mets à genoux et je dis, Seigneur, fais-moi vivre ça, hein, tout simplement. Seigneur, merci parce que nous sommes devant ta parole, nous sommes devant tes paroles qui ont impacté tes disciples. Seigneur, elles les ont impactées, mais peut-être pas transformées du jour au lendemain, puisque le long de ce chemin, ils se sont chicanés pour savoir qui était le plus grand. Ils ont voulu faire descendre le feu du ciel sur telle ville. Ils n'ont peut-être pas été artisans de paix tout le temps. Seigneur Jésus, mais cette feuille de route, ils les ont gardées, puisque nous les avons dans l'Évangile. Et Seigneur, nous avons vu la transformation à fur et à mesure des uns et des autres. Nous avons vu Pierre, le lâcheur, devenir Pierre, le témoin, martyr. Nous avons vu Jean, qui voulait faire tomber le feu sur telle ville, devenir celui qui parle le plus de l'amour. Nous avons vu Paul, un persécuteur, devenir un témoin jusqu'à la mort aussi pour toi. Seigneur, ces paroles, nous voulons les garder. Seigneur, tu ne les as pas prêchées en l'air. Tu ne les as pas envoyées comme, tiens, si quelqu'un pouvait les prendre au passage. Seigneur, tu es assis, tu parles, tu ouvres la bouche et tu parles, et nous sommes tes disciples autour de toi, et nous voulons les saisir. Et nous voulons te demander la force, Seigneur, de marcher vers, de marcher dans et avec ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Nous voulons être comme toi. Tu es notre modèle, mais ce n'est pas simplement un modèle à imiter très loin. Tu es un modèle qui vient au secours de notre faiblesse. Seigneur, merci parce que tu nous offres chaque jour ton infaillible amour. Amen. Soyez bénis.